poser des questions. On terminera par là. Vous avez dit que l'intelligence et la volonté sont au-delà du corps.
Oui.
Je ne vois pas que la quantité puisse suffire à cerner la spécificité de l'individu. Ne faut-il pas poser un problème, le problème de la personne ? Oui, c'est très vrai, le problème de la personne, le problème de l'individu. Mais ce que je voulais dire, c'est que saint Thomas, lui, voit l'individuation peut-être un tout petit peu autrement que nous la voyons. Oui, il la voit en théologien. Donc en théologien, il essaie de cerner comment se fait-il que tous ces individus qui ont la même âme spécifiquement sont divers entre eux. Alors, où vient le premier moment du caractère de l'individuation? Il dit la quantité et la matière et la quantité, ce qui est vrai. Vous voyez, c'est le premier moment, mais ce n'est pas, c'est pour ça qu'il dit principe d'individuation. Il faut comprendre principe d'individuation, non pas du tout comme un principe, mais comme le point de départ de l'individuation. Alors là, c'est très juste. Oui, point de départ de l'individuation. Et je crois que c'est du reste le mot principe. Le mot principe peut être un point de départ, comme peut être une détermination, une structure. Mais c'est pas une structure. Si toutes les âmes spirituelles sont identiques, elles ne sont pas identiques, elles sont spécifiquement les mêmes, le mot terme, et ne s'individuent que dans le corps, à la mort. Ah oui, les âmes spirituelles devraient toutes revenir identiques. Non, c'est pas ça. Oui, je reviens. C'est la matière et la quantité, qui est principe d'individuation, le point de départ de l'individuation. Dès que l'âme s'exerce, immédiatement, dans son exercice premier, dans son exercice même de vie végétative, elle s'individualise tout de suite. Alors, de fait, alors il faudrait dire l'âme d'un tout petit enfant qui ne sait jamais, mais tout de suite, le fœtus a tout de suite son individualité. Il n'a pas la plénitude des exercices du vivant, mais il a quand même tout de suite son âme. C'est suffisant pour individualiser. Alors l'âme reste toujours liée au corps. Il y a une relation de l'âme séparée. Il y a une relation au corps. C'est pour ça que l'âme est en attente de la résurrection. L'âme, une fois qu'elle a... Vous savez, tant que l'âme est unie au corps ici, elle trouve que le corps est lourd à porter. Et dès que l'âme quittera le corps, elle pleurera son corps. C'est très curieux, ça, ceci. C'est toujours comme ça, vous voyez. C'est une partie de cette supérieure, vous savez, qui était tout à fait proche de la mort. Alors à ce moment-là, elle a reçu de toutes ses sœurs des lettres en disant « Combien, ma mère, vous êtes indispensable à la communauté, c'est merveilleux, c'est ça. » On est... Alors, elle disait, il faut être tout proche de la mort pour comprendre que vos sœurs vous aiment. N'est-ce pas ? On voit très bien le phénomène. C'est que dès qu'il y a une proximité de séparation, immédiatement, il y a une affectivité plus grande. C'est sûr, c'est comme ça, on est ainsi fait. Et elle n'est pas morte du reste des supérieurs. Et elle a gardé les petits papiers. C'est au moment de la séparation, quand on est tout proche de la séparation, que l'affectivité augmente. Il y a un petit phénomène comme ça par rapport de l'âme au corps. C'est quand l'âme sera séparée du corps, elle l'aimera d'une façon très particulière. La partie conjointe. La partie conjointe qui a été source de souffrance, source qui a pâti comme... Tandis que quand on est avec notre corps, on se dit « Ah non, frère l'âne, ça veut dire quelque chose comme frère l'âne, le corps. C'est quelque chose de très particulier. » Et on tape dessus parce que justement, il nous ralentit. Non. Alors, tandis que dès qu'on sera, on aura quitté le corps, il y aura un amour très grand, un appétit naturel de l'âme vis-à-vis du corps. Et cet appétit naturel de l'âme du corps fait que l'âme attend la résurrection des corps. C'est très très curieux ça. Évidemment, on n'a pas beaucoup d'expérience de ça. Mais nous pouvons le sentir. Nous pouvons le sentir dans la foi. Parce que s'il y a résurrection des corps, c'est pas pour que l'âme soit accablée du corps ressuscité. C'est au contraire pour que l'âme puisse être glorifiée, pour que l'âme puisse s'épanouir. C'est pour ça qu'on doit avoir un amour vis-à-vis de son corps, un amour de charité vis-à-vis de son corps. Alors on doit lui faire donner le plus de rendement possible, n'est-ce pas ? C'est évident. On doit le dépasser et l'assumer pleinement, mais on doit avoir un amour. On ne doit pas brutaliser notre corps. Non, c'est pas bien. Le démon le brutalise. Mais pas l'âme, c'est pas. Les bons anges gardiens ont un très grand amour de notre corps. Quand on doit donner des efforts particuliers, ils viennent nous aider, justement. Nous aider pour le grand jeûne du carême. Alors, ils nous aident à dépasser ce point de vue-là. Mais on sent très bien. Parce que c'est un effort par rapport au corps, le jeûne du carême. C'est dominer son corps, c'est un des aspects du jeûne. C'est pour glorifier Dieu et montrer qu'on veut glorifier Dieu de cette manière-là. Mais il y a quand même aussi cet effort de dépasser le poids de la matière. Et dépasser le poids de la matière par une âme vivante, par une âme qui dépasse. Bon, on va s'arrêter.